Bonjour à toutes et à tous, voici le 19e épisode de la saison 2. Merci de suivre Le Lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs, auditrices. Alors, aujourd'hui, ça va être un format un peu spécial. La semaine dernière, j'ai chroniqué le roman d'Amélia Matar qui s'appelle « Ainsi naissent les mamans ». Et en fait, je suis bénévole également dans une radio locale, ici en Bretagne, et j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Alors, je me suis dit que c'était quand même intéressant d'entendre l'auteur parler de ce roman, que ça allait compléter la petite chronique que je vous ai faite la semaine dernière. Donc, eh bien, je partage avec vous l'interview que j'ai réalisée avec Amélia et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes encore et toujours au Salon du Livre de Carnac et on termine avec Amélia Matar. Amélia, bonjour.
Bonjour.
Amélia a sorti un premier roman super chouette qui s'appelle « Ainsi naissent les mamans ». Vous nous racontez un petit peu de quoi ça parle ?
Avec plaisir. Donc « Ainsi naissent les mamans », c'est l'histoire de Alice qui a 8 ans et qui est élevée depuis sa première semaine de vie par une nounou, Fatima, car sa maman, Valentine, travaille énormément, dirige une entreprise et fait le choix de déléguer l'éducation de sa fille à une autre, si bien que cette autre devient quelque part la maman de substitution d'Alice. Et lorsqu'elle a 8 ans, Valentine décide de licencier Fatima et la petite Alice vit alors un véritable drame et va entrer dans une phase presque de dépression infantile, mais elle va mettre en place un certain nombre d'actions de rébellion, si j'ose dire, pour ne pas subir cette situation qui lui est parfaitement insupportable.
Complètement. Un roman vraiment chouette, qui peut sembler dur, et si on s'arrête à la lecture du niveau social, bah oui, on peut, si on n'a pas envie de s'en mettre en question, si on n'a pas envie de réfléchir aussi à son statut d'enfant ou de parent, et puis ça peut être compliqué pour certains. Et puis il y a une autre lecture. Dans la première lecture, on pourra aussi maudire justement Valentine, ou sa mère d'ailleurs. On pourra aussi en vouloir à Fatima d'avoir pris cette place, encore si on se sent coupable de ne pas avoir été là pour les siens. Une chose est sûre, il n'y a nul parent parfait, nul enfant parfait. C'est une histoire universelle en fait. Elle est posée là dans un cadre où effectivement on est dans une famille très riche qui travaille énormément et avec la nounou. Mais cette histoire, elle se transpose dans toutes les classes sociales.
Oui, oui, tout à fait, parce que là, il s'agit d'une nounou, mais il pourrait s'agir d'une grand-mère, il pourrait s'agir d'une tante, d'une personne avec aucun lien de parenté, mais qui devient effectivement une figure d'attachement principale pour l'enfant. Donc oui, oui, clairement. D'ailleurs, souvent, les personnes me racontent leur propre histoire en écho. Il s'agit pas toujours de nounou, il s'agit de plein d'autres personnes qui ont été hyper importantes pour ces gens.
C'est un livre qui résonnera en toute maman pour sûr. Grands-parents, tonton, tata, tout le monde. Effectivement, c'est vraiment un roman qui résonne, qui nous questionne, qui nous remet en pleine face, mais pas forcément, enfin c'est pas compliqué, mais qui nous remet qui on est, et voilà, qui je suis, qui j'ai été en tant que maman, qui je suis ou qui j'ai été en tant que fille. Il fait vraiment réfléchir, ce roman. Et c'est un roman, c'est une histoire, il se lit tout seul, on s'attache à tout le monde, à la mère, à l'enfant, à la nounou, au père, qu'on aime, qu'on déteste. Qu'on aime, c'est plus compliqué, mais voilà, il y a une empathie pour tout le monde, c'est vraiment chouette. Et alors, les chapitres, ils alternent avec les points de vue d'Alice, donc 8 ans, de sa mère ou de la nounou. Ça se passe à Bondy, la ville où vous avez passé votre enfance et votre jeunesse. C'était impératif de situer le roman là aussi.
Oui, clairement, je vois qu'aujourd'hui, de plus en plus, notre société a tendance à beaucoup stigmatiser les personnes issues de quartiers, comme on dit. Or, en fait, ces quartiers abritent une pluralité d'individus et des parcours très, très différents. Et bien sûr que le lieu de naissance n'enferme pas et n'empêche pas de devenir. Et oui, clairement, j'avais envie de montrer que on peut venir de Bondy, vivre à Bondy, et voilà, être un individu à considérer comme un autre, quoi, bien sûr.
Et en fait, dans le roman, Valentine, la mère, et Fatima, en fait, elles ont reçu une éducation avec un but commun, en fait, unique, malgré un milieu social complètement différent, réussir socialement, à savoir se marier avec un beau parti, avoir un travail où on se situe en haut de l'échelle, et elles sont tellement à l'opposé l'une de l'autre, mais elles sont un peu pareilles. Enfin, en tout cas, elles ont eu la même base.
Oui, oui, c'est effectivement un parallèle hyper intéressant à relever. Finalement, tous les dissocient, tous les différencient, mais cette injonction qu'elles ont reçue dès leur plus jeune âge à réussir et à voilà, soit se maintenir effectivement tout en haut de l'échelle ou alors à parvenir à grimper. C'est quelque chose qui les réunit fortement. Et oui, Fatima, ce que j'ai voulu montrer, c'est que ça peut être aussi une souffrance d'avoir comme ça cette épée de Damoclès de la réussite au-dessus de sa tête où il est impossible d'avoir une autre trajectoire parce que voilà, on a ce regard parental oppressant qui nous incite, qui nous force. Et voilà, c'est une forme aussi de maltraitance quelque part.
Et je reviens à la donc deuxième lecture possible, et c'est là où je trouve super intéressant, c'est réaliser que en fait, c'est un leurre ou une possibilité. Cette petite fille élevée par une nounou, par une mère, voilà, en haut de l'échelle sociale qui travaille beaucoup trop, ça pourrait être celle d'une enfant de pauvre en fait, qui sont obligés de bosser comme des dingues pour cumuler deux boulots, qui rendent tellement épuisés qu'ils ont même pas ils ont plus la force d'être là, ils sont là mais juste physiquement. Parce que être là pour les enfants, c'est pas rien, c'est pas seulement physique justement. Le nombre d'enfants dont la mère le plus souvent elle est à la maison mais qui connaît absolument pas son enfant, parce que la vie la fait tout courir quoi. C'est terrible. Mais cette universalité, elle est juste énorme. Et du coup, je m'étais demandé si vous aviez rencontré en vrai Valentine et Alice, mais vous avez dû en rencontrer plein des Valentine et Alice.
Alors c'est extrêmement juste et je suis vraiment très reconnaissante de cette lecture-là. Où c'est la première fois qu'on me propose en fait effectivement ce parallèle que je trouve d'une pertinence vraiment saisissante. Et je crois que ça raconte quelque chose effectivement de la défaillance de notre société, c'est-à-dire à quel moment est-ce normal qu'une mère, qui est dans une situation économique compliquée, doive à ce point se couper de son enfant. Je crois qu'il a existé ou il existe par ailleurs des sociétés plus communautaire, plus collective, où on permet du coup à la mère de créer ce lien qui est quand même assez fondamental, et à l'enfant en fait d'avoir plusieurs liens, d'être dans un collectif, une communauté qui l'aide à grandir. Et oui, clairement le parallèle est évident. Ces mères qui doivent sacrifier leur maternité sur l'autel de le foyer, l'économie du quotidien, elles sont très très nombreuses. Des Valentines, j'en ai pas rencontré moi personnellement, mais Valentine, clairement, elle me vient des récits de ma propre mère, qui travaillait quand j'étais petite beaucoup, et qui, en plus de son travail la semaine, travaillait le week-end dans une famille extrêmement riche, qui était diamétralement opposée à nous, à notre quotidien, et elle revenait avec ses anecdotes de cette famille, de cette sociologie qui nous paraissait tellement folle. Elle me racontait notamment effectivement ses enfants de ces familles qui n'avaient pas été élevés par leur mère mais par des nounous, avec plein d'anecdotes sur la façon de manger, sur la façon de s'habiller, où c'était même les nounous qui allaient choisir les habits, etc., des enfants. Et voilà, clairement Valentine, elle est née de ces récits-là.
Ça allait être ma prochaine question parce que je l'avais lu ça, l'histoire de votre maman. Bon ça c'est fait. Je voulais aussi revenir sur le fait que vous êtes fondatrice du projet Colori en 2018. Passionnée par la révolution numérique, vous vous inquiétez de l'impact qu'il a sur les enfants. Et donc vous avez créé un projet super sympa qui les amène au numérique mais uniquement par le jeu, sans passer par les écrans. C'est super chouette. Et d'ailleurs on retrouve le petit conte, un des supports de Colori. On a Alice qui s'en sert aussi dans le roman.
Merci encore une fois, je suis pleine de reconnaissance dans cette interview parce que pareil, on a rarement relevé ce clin d'œil. Effectivement, Colori, l'idée c'est de donner des clés de lecture aux enfants de ce monde en transformation très très rapide et parfois un peu déstabilisante aussi, et leur permettre de grandir en citoyens éclairés, de manière à ce qu'ils soient pas juste des consommateurs d'écran mais qu'ils aient une consommation intéressante avec discernement qui participe à leur développement. Effectivement, Colori repose sur un conte qui est lu aux enfants, Ayo le robot, qui met en scène un petit garçon et une petite fille qui vivent plein d'aventures autour des grandes notions informatiques, et Alice adore Ayo le robot.
Exactement. Alors, moi ce que j'ai aimé aussi dans ce roman, c'est que on est dans une période, on est dans une ère depuis quelques années déjà, où les librairies sont remplies d'éducation bienveillante. Et je pense à ça par rapport au projet Colori qui est rattaché à Montessori. Et d'ailleurs, j'allais oublier, et j'y viens, au début de chaque chapitre, il y a une citation de Maria Montessori dans le roman. Alors, j'ai commencé à lire la première, et puis ça m'a fait réfléchir, évidemment. Bon, je rentre dans le chapitre, deuxième citation. Et ça me fait réfléchir. Bon, moi, ça m'a saoulée. Donc, du coup, j'ai arrêté de lire les citations juste parce que ça m'emmenait vers des réflexions trop profonde. Donc du coup, ça me perdait et j'avais envie de connaître l'histoire de Valentine et j'étais dedans et je voulais rester dedans. Donc moi, ma lecture à moi, ça a été, bon, je lis les romans et deuxième lecture, j'ai repris tous les chapitres et je me suis relu toutes les citations et ça m'a permis effectivement de, voilà, de pouvoir prendre le temps de les apprécier et de les digérer. Alors après, ça n'engage que moi. Et d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui l'ont lu, je suis curieuse de savoir comment ils l'ont lu. J'ai trouvé ça chouette, mais du coup, après quoi. Et tout ça pour en revenir effectivement à Montessori. Et j'ai aimé dans la construction de ce roman, c'est que dans nos librairies, on a énormément d'éducation bienveillante, d'éducation l'enfant et faire attention. Et ça va trop loin. Alors c'est pas le précepte de base qui va trop loin. C'est ce qu'en font les gens. Il y a malheureusement beaucoup, je trouve, de parents qui du coup s'en servent comme oh bah je laisse faire, bah il s'éduque tout seul. Et en fait c'est pas ça du tout quoi. Il y a une déviation de l'utilisation de Montessori et autres. Mais voilà, de cette éducation où on doit juste respecter l'enfant en tant qu'être, parce que c'est des êtres autonomes, indépendants de nous, et qu'on doit juste les emmener à être eux-mêmes, à être des adultes autonomes, indépendants. Et dans le roman, eh bien, on a ce juste milieu. Vous avez remis l'éducation Montessori vraiment à sa place. Bon, c'est pas très étonnant en vue de ce que vous vivez, mais je voulais vous remercier pour ça, parce que voilà, on n'est pas dans la caricature et ça fait du bien.
Eh ben merci déjà pour ce commentaire sur effectivement les citations Montessori. Alors moi, Maria Montessori, son œuvre m'a bouleversée. J'ai trouvé que c'était une femme absolument visionnaire qui méritait. Alors elle est déjà extrêmement connue et reconnue et voilà, on parle de 40 000 écoles Montessori dans le monde, etc. Mais j'avais envie à ma petite échelle de contribuer encore un peu à faire connaître sa pensée qui est absolument d'une puissance vraiment incroyable. Et sur l'éducation positive, je partage complètement votre point de vue et voilà, je me permets un petit cours théorique là-dessus parce que je trouve que c'est hyper intéressant en tant que parent d'arriver à se situer. En fait, je sais plus quelle psychologue américaine très connue, mais on se sert beaucoup de ces théories en éducation, a distingué 4 styles parentaux sur des axes à la fois de chaleur, de bienveillance, de respect de l'enfant et des axes d'exigence. On a les parents autoritaires qui sont très peu bienveillants, très peu chaleureux avec leur enfant, mais très exigeants. On a des parents laxistes qui sont très chaleureux, très bienveillants, mais avec aucune exigence. On a des parents négligents qui sont à la fois très peu chaleureux et très peu exigeants. Et donc, le seul style parental, entre guillemets, qui vaille et qui permette à l'enfant de se développer pleinement, d'être heureux, de réussir à être en société, à être dans le collectif, dans l'attention aux besoins de l'autre, etc., c'est le style parental qui est à la fois très exigeant et à la fois très bienveillant. Et cette exigence, effectivement, elle est importante. L'enfant, il a besoin d'un cadre, il a besoin de limites, il a besoin d'être accompagné dans son développement. Et l'approche Montessori est extrêmement encadrée. Enfin, quand on rentre dans une classe Montessori, c'est assez saisissant de voir à quel point cette approche effectivement suit un programme très rigoureux, très pensé, très cadencé et dans lequel l'enfant se sent bien parce qu'effectivement il a un périmètre de règles, de sécurité qui lui permet de se développer pleinement dans la bienveillance, dans la chaleur, dans l'écoute de ses besoins aussi.
Et je suis très contente qu'on aborde ce point et que vous ayez expliqué tout ça parce que ça me tient à cœur aussi, comme c'est dit dans le roman, et c'est pas simple parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et qu'effectivement, on fait du mieux qu'on peut en tant que parent, mais avec ce qu'on a vécu enfant. Et mon Dieu, c'est compliqué. Il faut lire « Ainsi naissent les mamans ». Il en ressort plein de choses, plein de douceur, plein de bienveillance. Alors moi, je suis pas hyper fan de ce mot « bienveillance », mais quand même, là, ouais. Là, il vaut le coup. Et c'est un roman, voilà, très attachant au niveau de tous les personnages. Carnac, le salon, comment ça se passe ? Et quel est votre rapport à la Bretagne ?
Alors mon rapport à la Bretagne, il est assez récent, il date de ces 10 dernières années parce que mes beaux-parents, avec lesquels je m'entends très bien, que je salue si ils écoutent cette interview, sont venus s'installer à Dinan. Donc du coup, on vient régulièrement en Bretagne et c'est un véritable coup de cœur. J'adore l'esprit, j'adore les paysages. Voilà, alors là, on est un peu loin de Dinan ici, mais même ici, enfin voilà, c'était impératif dès le premier jour que j'aille voir la mer. J'ai commencé par ça. Et oui, c'est un cadre splendide. Enfin, ça fait même partie clairement des projets de s'en rapprocher parce que bah, du coup, on a une attache familiale forte avec mon mari. Le salon, alors les rencontres livresques, comme les appelle Jean-Marie Kemener, sont absolument géniales. Enfin, moi, je prends vraiment mon pied parce que c'est petit, donc c'est humain. On peut discuter longuement avec chacune des personnes qui vient s'intéresser à votre roman. On peut discuter aussi aisément avec les autres auteurs, autrices. Il y a un esprit de camaraderie qui est vraiment très très chouette, voilà, qui ressemble vraiment pour moi à une parenthèse amicale, parce que j'ai une vie assez intense avec le travail, les enfants, l'écriture, etc. Et là, oui, j'ai le sentiment d'être dans des espèces de vacances apprenantes et des rencontres voilà, très enrichissantes.
Eh bien, on est drôlement contents. Et est-ce qu'il y a un projet d'écriture en cours ? Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois petites choses ?
Oui, alors il est vraiment aujourd'hui très très embryonnaire, mais alors moi mon métier m'amène à être en contact très étroit avec l'école, avec cette institution à laquelle je tiens beaucoup aussi par rapport à mon propre parcours. Et j'ai très envie, alors pour l'instant encore une fois c'est vraiment des bribes d'idées, mais j'ai très envie d'écrire l'histoire d'un instituteur qui se donne pour mission de sauver un certain nombre d'élèves de sa classe. Vous imaginez plutôt une classe REP, voilà, dans un contexte économique un peu difficile, et qui permet du coup au lecteur de découvrir un certain nombre de parcours d'enfants et de comprendre la pluralité d'enfants qu'on peut avoir dans une classe comme celle-ci, et à quel point l'école peut être un refuge et un levier de développement énorme pour ces enfants-là.
Trop bien, on a hâte. Merci Amélia Matar, mille merci pour le temps que vous avez bien voulu accorder à Radio Large. Et je vous souhaite un bon salon et encore de belles rencontres.
Merci infiniment, c'était un immense plaisir.
Et voilà, l'interview avec Amélia, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'ai d'autres interviews sous le coude. Et si ça vous dit, on pourra les caler ici avec grand plaisir. Le Lirez-vous, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !